Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
En Suède, c'est un sujet de conversation quotidien, de blagues, de craintes. Les impôts, ce qu'on paie ou pas, l'argent qu'on réussit à planquer en Suisse, ce que déclarent ou ne déclarent pas les voisins, les amis, les autres. Il faut dire qu'au pays de la social-démocratie, à la fin du XXe siècle, on pouvait facilement être taxé jusqu'à 87% de ses revenus. Les riches suédois râlaient, autant qu'il est possible de râler un citoyen aussi discipliné, mais ils raquaient. Il y avait quelques exceptions notables, comme le fondateur d'IKEA, qui a attendu 89 ans et une grande réforme fiscale pour rentrer au bercail et y déclarer ses milliards et y payer aussi son dû. Il faut dire aussi qu'en Suède, les administrations sont totalement transparentes. En 2-3 clics, on peut connaître la situation financière et fiscale de son cousin, comme celle du ministre de l'Intérieur. En gros, les seules choses qui sont protégées sont les secrets d'État et les dossiers médicaux. En France, l'imposition et partant le rôle de l'État dans la société constituent des sujets politiques de premier plan, évidemment, mais ce sont rarement des histoires drôles, de voisinage ou liées à la vie privée. Tout cela risque de changer depuis que la loi de finances de 2017 autorise l'administration fiscale à rétribuer officiellement les indiques, c'est-à-dire ceux qui dénoncent les fraudeurs au fisc. La mesure est expérimentale, explique Le Figaro, qui s'intéresse de très près à cette question, et elle n'est testée que pour une durée de 2 ans, donc on devrait bientôt en connaître les résultats. Il n'empêche que des récompenses sont donc prévues pour les délateurs, ou bien, si on regarde différemment, pour des citoyens qui font leur devoir et essaient de rétablir la justice fiscale. Le montant de la gratification est calculé en fonction de la fraude. Évidemment, plus elle sera importante, plus l'indemnité, c'est le terme utilisé, sera conséquente. Hélas, cette disposition ne s'applique pas aux particuliers, donc pas question d'assouvir vos vengeances personnelles contre votre ex-mari ou votre patron et d'empocher un magot en même temps. La mesure ne concerne que des fraudes fiscales internationales, donc les paradis fiscaux sont en première ligne et les sommes probablement rondelettes. L'Allemagne et le Danemark font déjà ça, précise encore Le Figaro, qui cite le cas du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Et alors entre 2010 et 2016, l'administration fiscale y aurait déboursé 18 millions d'euros pour acheter 11 CD et clés USB bourrées d'infos sur les paradis fiscaux et en aurait retiré 6 milliards d'euros de recettes pour son budget général. C'est donc une bonne affaire. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, 3 histoires d'impôts à l'échelle de la vie quotidienne, avec des gens qu'on entend peu chez nous, un redressé du fisc, un ancien inspecteur des impôts, et pour finir, Sifano, un jeune youtubeur gamer qui joue à Zelda, en ligne donc, enfin dans ses vidéos. Il a 2 221 000 abonnés, il a consacré plusieurs vidéos à ses problèmes d'impôts, il ne donne pas ses revenus précisément, mais à l'entendre, on se dit qu'ils doivent être sympathiques. Le fisc, 3 récits par Alain Lefkovitch.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Henri Dumas, je suis architecte et promoteur. Je suis un monsieur qui a un certain âge. Je me suis installé comme travailleur indépendant, comme profession libérale en 1965. Donc j'ai connu le plein emploi, j'ai été élevé dans une famille de profession libérale, commerçant depuis le milieu du 19e siècle. Donc très rapidement, puisque l'époque était favorable, en 1965, j'ai très vite eu des clients, j'ai très vite travaillé. J'ai eu une famille, une épouse que j'ai encore, des enfants qui ont bien travaillé, qui sont sages. Donc si vous voulez, de 65 à 2000... tout s'est bien passé. Puis en 2000, je suis rentré de plein fouet dans le TGV Bercy, qui m'a renversé pour 20 ans. Mon père décède en 76. Pendant 20 ans, j'ai ma mère à charge et elle décède en 97. Et là, à l'occasion de la succession, je rencontre donc le fisc. parce que j'avais à l'époque une période assez tendue. J'avais un associé qui était la Massif, avec qui on s'était un petit peu fâché sur un gros programme dans l'île de Ré. Donc, pour me protéger, j'avais été obligé de mettre une partie de mon capital sur le compte de ma mère. Et donc, avant qu'elle décède, de récupérer mon capital. Et là, le fisc me dit, mais monsieur, votre mère vous a fait une donation avant de décéder, il faut nous la déclarer. C'était peut-être 5 ou 700 000 francs, ça ferait peut-être 100 000 euros de maintenant. Mmh. Parce qu'à l'époque, c'était des francs, on se rappelle plus très bien comment ça marche. Donc, on n'est pas en millions, hein. Attendez, là, c'est pas LVMH qui se bat avec Pinot, hein. C'était beaucoup plus petite échelle. J'étais transparent. Je veux dire, il y avait rien de caché, il y avait rien d'occulte, c'était des chèques, c'était pas de l'argent liquide, c'était pas, il y avait une explication, il y avait aucun problème. Donc, j'explique ça à la dame du fisc, qui me pose des questions, je lui donne tous les documents. Elle me redemande 3, 4, 5 fois, puis c'est toujours, mais d'où vient cet argent, et pourquoi, mais comment, mais c'est mon argent, voilà comment je l'ai gagné, j'ai payé mes impôts, voilà, je lui réponds toujours la même chose. Elle ne me croit pas, donc elle m'espionne, elle va demander au notaire pour voir si ce que je dis est vrai, enfin, si vous voulez, c'est une situation désagréable à laquelle je ne suis pas habitué, puisque moi j'ai un fonctionnement complètement transparent. Donc ce monde un petit peu compliqué, je ne connais pas. À l'époque, si vous voulez, ça se passe à 7. Et dans cette vie, je suis quand même assez connu. Donc aussi, peut-être qu'elle se dit, j'ai construit beaucoup de choses, la médiathèque, des lycées. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait une grosse manifestation qui s'appelle les Journées Brassens. Donc, si vous voulez, peut-être qu'elle se dit qu'elle tient l'affaire du siècle. Et donc, un jour, je lui dis, écoutez, vous arrêtez, il y en a marre, quoi. Vous n'allez pas me poser des questions tous les 15 jours. Et la même, en plus, je la renvoie un petit peu balader. Et je suppose que ça ne lui plaît pas. Et donc, avoir son chef. Et donc, voilà que la chef me colle en redressement. Là, ça commence à devenir sérieux parce que c'est en millions de francs. Donc, c'est en centaines de milliers d'euros, quoi. Ça doit être 300-400 000 euros. Sur la valeur de la succession. Parce que ma mère n'avait rien sauf une maison. Donc, au lieu de composer, je me défends. Parce que tout d'un coup, je trouve que c'est pas bien. Et là, donc, ça dure 20 ans. 20 ans pendant lequel ils vont me faire tout parce que je vais très loin avec ma bonne foi. Donc ils décident de me tuer et donc sur deux sociétés que j'ai, ils font deux contrôles et là, ils me ratibassent complètement. Je ne cède pas, mais je me retrouve donc il y a 10 ans, donc j'ai 65 ans, totalement ruiné. J'étais comme tous les entrepreneurs, hein. J'ai eu besoin d'avoir une certaine image, d'avoir comme tous les entrepreneurs, le petit maçon du coin, le petit plombier, dès qu'il gagne un peu d'argent, ben, il faut qu'il achète une camionnette neuve, il faut bien qu'il montre qu'il existe, et c'est pour tout le monde comme ça. Moi je suis tellement ordinaire, si vous saviez, j'ai acheté des voitures comme tout le monde, j'ai acheté un bateau, enfin, j'ai acheté tout ce que tout le monde achète, mais ben, mon bateau il faisait 8 mètres, il ne faisait pas 40 mètres, il était à mon échelle. Voilà. Donc j'ai tout vendu. J'avais des bouteilles de Romane et Conti, je les ai vendues, vous voyez, pour vivre. J'avais un tableau de combat, j'ai vendu. Oui, j'ai tout vendu, j'ai tout perdu, tout. Mais bon, vous savez, à 75 ans, quand je m'assois dans mon fauteuil, je vois plus mon combat, je vois une croûte à la place. Mais bon, c'est sûr, j'ai été beau comme tout mon combat. Mais bon, voilà, puis quand je bois plus de vin, de toute façon, donc je m'en fous. Donc si vous voulez, toutes ces choses-là, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, on sait qu'on n'en a pas besoin. Ou d'ailleurs, est-ce qu'on en a eu vraiment besoin? Moi, je vis avec ma retraite qui est de 480 euros par mois. Donc, c'est pas ça le problème. Non, le problème, si vous voulez, c'est la haine que l'on sent, c'est le marquage. Quand vous dites que vous avez un contrôle fiscal et que vous êtes ruiné, tout le monde dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc déjà, vous passez pour un salaud. Donc ça, c'est assez pénible. Et les autres entrepreneurs commencent à vous fuir parce que vous n'êtes pas fréquentable. Parce qu'on ne sait jamais, par osmose, effectivement, pendant qu'on fait votre contrôle fiscal, on regarde les factures que vous avez, on regarde les gens avec qui vous travaillez et on va peut-être aller chez eux après. Donc, si vous voulez, vous êtes la peste. Alors ça, c'est instantané. Et c'est comme ça. Et comme si vous arrivez au bureau le matin en disant « Bon les gars, j'ai un cancer. » C'est fini. Vous êtes éliminé, on ne va plus vous filer de machin parce que bon, voilà, hein, vous allez avoir le machin, la chimio, le truc, chose. Non, c'est plus bon. C'est fini. C'est pareil. Alors oui, effectivement, ben, vous ne pouvez plus travailler. Ça s'arrête. Et c'est compliqué. Hein. mes comptes en banque étaient fermés. Il a fallu que j'aille à la Banque de France pour obliger la Banque de France à m'ouvrir un compte. Mes banquiers m'ont foutu dehors. Enfin, si vous voulez, c'est une descente aux enfers. Si vous n'avez pas des enfants aimants, si vous n'avez pas une femme aimante, si vous n'avez pas un milieu, si vous voulez, vous ne pouvez pas survivre, ça c'est sûr. Hein. Alors ça c'est certain. Hein. Je me bats depuis et au bout de 20 ans, je gagne. Je gagne la première manche, c'est-à-dire au bout de 20 ans, je gagne la succession de ma mère où la Cour de cassation dit oui, effectivement, il n'y a pas lieu à redressement. Et il me reste les deux autres affaires sur le paletot pour lesquelles je suis actuellement au tribunal et ça va durer sans doute, puisque je n'ai qu'une dizaine d'années, peut-être encore une dizaine d'années si je reste vivant. Le fisc installe volontairement la terreur. Bon, c'est une terreur et une torture. Hein. Donc ce harcèlement et cette torture génèrent une terreur qui fait que les gens paient. Ils sont paniqués. Ils n'en parlent pas. Parce que le montrer du doigt par le fisc est un fraudeur fiscal, c'est-à-dire que tant qu'on sera considéré au départ comme présumé coupable, il n'y a pas d'issue. Hein. Mais c'est beaucoup mieux de tuer son voisin. Hein. Parce que vous tuez votre voisin, vous n'avez pas 15 ans, vous sortez au bout de 10 ans, puis voilà, faites ce que vous voulez. Là, non. Vous êtes condamné à mort. Là, toute votre vie, toute la vie de vos enfants, on va continuer à vous harceler, on va continuer à vous torturer. Donc, je ne suis pas du tout sûr que l'État soit un bon entrepreneur. Je pense même que l'État est un très mauvais entrepreneur et que donc on paye trois fois le prix. Quand vous prenez, par exemple, les charges sociales, une assurance correcte, ça vaut le tiers de ce que fait payer la Sécurité sociale. Et vous voulez garder cet État comme patron ? Attendez, moi je pense que c'est une très mauvaise affaire, mais ça vous regarde. Hein. Mais partout où l'État s'installe comme patron, c'est la faillite assurée. Donc déjà, l'hypothèse de départ, moi me paraît politiquement et philosophiquement mauvaise. Mais c'est pas une réalité, ça c'est une croyance. La différence entre Dieu et l'État, il n'y en a pas. C'est-à-dire Dieu c'est une abstraction et l'État c'est une abstraction. Jamais personne n'a vu Dieu et jamais personne n'a vu l'État. On ne voit que les représentants de Dieu et les représentants de l'État qui se servent. Certains sont sincères, la plupart ne le sont pas. Donc à partir du moment, si vous voulez, où on part avec une croyance et où on a au départ une hypothèse qui est fausse, c'est un sophisme, et donc on est dans l'erreur, mais on est dans l'erreur collective, on ira au bout. Et au bout de l'erreur c'est la guerre et la faillite. Mais on est obligé d'y aller, on peut pas, ça ne peut pas se passer autrement. Moi, si j'étais jeune, je foutrais le camp de ce pays, mais alors, comme une fusée, hein. Comme une fusée, hein.
Je m'appelle Rémi Garnier, j'ai 69 ans, je suis un ancien inspecteur des impôts et j'ai exercé une bonne partie de ma carrière en qualité d'inspecteur vérificateur dans une brigade spécialisée dans la vérification de comptabilité des entreprises d'une certaine importance. En 1998, j'ai vérifié une union de coopératives, Prune Franche, dans le secteur du pruneau d'Agen. Cette union de coopératives transformait les pruneaux déshydratés, réhydratés, pour les commercialiser par l'intermédiaire d'une filiale avec des dirigeants communs. En général, plus la quantité vendue est forte, plus le prix diminue. Là, c'était l'inverse. Le but de l'opération étant de transférer des bénéfices de la filiale vers l'union de coopératives. Grosso modo, on annulait 99% du bénéfice de la filiale par ce biais-là. Ce qui m'a conduit à notifier des redressements de l'ordre de 5-6 millions, mais dès réception de la notification, le député du coin, un certain Jérôme Cahuzac, est intervenu auprès du préfet de région, et pour finir auprès du secrétaire d'État chargé du budget, qui était à l'époque Monsieur Christian Sauter. Il est intervenu en développant les arguments de la société, à savoir ses difficultés économiques passagères. Contre toute évidence, la société soutenait que sa gestion était parfaitement normale. La Direction générale des impôts répond. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, en l'état du dossier et sur le plan des principes, je ne puis que vous confirmer l'analyse du service, à savoir le vérificateur, donc moi-même, la variation dégressive du taux de marge consenti à la filiale en fonction du volume de ses achats auprès de l'Union coopérative Prune-Franche, s'inscrit manifestement en contradiction avec les usages commerciaux les plus élémentaires. À cet égard, l'intérêt du groupe ne saurait justifier à lui seul de telles pratiques. Donc là, nous avons une confirmation complète de la position du vérificateur sur le plan du principe. Mais le député, Monsieur Jérôme Cahuzac, qui est un homme pressé, revient à la charge. Et il y a une réunion au sommet de la direction générale le 31 avril. Et pendant quelques mois, rien ne se passe. Mais le 2 juin, la direction générale écrit une note pour le ministre chargé de répondre aux députés. Et là, on change de politique du tout au tout. Il est dit que l'examen particulièrement attentif de cette affaire, auquel il a été procédé, permet d'admettre la position de la société. Donc il n'est plus question de prix de marché, il n'est plus question de gestion anormale. Et sans autre explication, les redressements sont abandonnés purement et simplement. Donc je reçois l'ordre de ma hiérarchie de confirmer l'abandon des redressements et de m'incliner sur la position du ministre. J'ai donc exécuté la décision du ministre en y mettant certaines formes qui ont eu l'heure de déplaire souverainement à ma hiérarchie. Donc on me reproche de faire une interprétation personnelle de la loi fiscale, ce qui est assez curieux puisque mon analyse tout à fait personnelle avait été avalisée par la direction générale. Le chef de brigade a fait changer les serrures pour m'interdire l'accès à mon bureau. Et j'ai été déplacé d'office une première fois au service du contentieux sur un poste complètement inexistant. Ensuite au service du domaine sur un poste inexistant. Et pour finir, ils ont créé un poste spécialement pour moi à la brigade d'études et de programmation de Bordeaux, un poste à Agen, alors que dans cette période, ils supprimaient toutes les antennes extérieures, notamment à Limoges, à Poitiers, etc. Et effectivement, j'ai déposé une plainte contre X, dans laquelle je cite nommément le directeur général des impôts, le secrétaire d'État au budget, monsieur Christian Sauter, plus Florence Parly, qui lui a succédé peu après. Et je dépose plainte donc pour trois chefs d'infraction pénale, dont le plus important est l'abus d'autorité dirigé contre l'administration. Il m'a fallu 15 années de procédure. Là, je suis passé par tous les stades. Hein. Première instance, appel, cassation. Je suis monté jusqu'au Conseil d'État et même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France. J'ai obtenu au final d'être indemnisé de façon significative pour harcèlement moral pendant 10 ans. Avec un grand regret toutefois, les responsables et coupables de tous ces dysfonctionnements que j'ai dénoncés n'ont jamais été inquiétés. Ils ont tous été promus. Bon, Jérôme Cahuzac, il ne m'a pas porté chance. Et ça ne lui a pas porté chance à lui non plus d'ailleurs. La suite le prouvera quelques années plus tard. Parce que j'ai fini ma carrière dans un service d'études et de programmation. Et c'est dans le cadre de ces études et de programmation que j'ai eu vent du compte suisse de Jérôme Cahuzac. J'ai fait état de ses soupçons dans une note du 11 juin 2008. Et c'est ce qui a servi d'appui à Fabrice Arfi, un enquêteur de Mediapart. Il est parti de là pour tirer le fil de cette affaire jusqu'à son dénouement final. Alors, bien sûr, j'en tire satisfaction d'avoir été un lanceur d'alerte avant l'heure et reconnu comme tel, puisque j'ai fini par obtenir un prix éthique qui m'a été décerné en janvier 2017 par l'association Anticor, alors que l'année d'avant, le secrétaire d'État au budget, monsieur Christian Eckert, lui, se voyait décerner une casserole par l'association Anticor. Donc le parallèle, vous voyez, est saisissant.
Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler d'un nouveau sujet. Et aujourd'hui les amis, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai subi un contrôle fiscal ces derniers mois, ces dernières années. Et je tenais à vous en parler tout simplement pour vous raconter mon expérience, vous prévenir aussi si certains peut-être sont sur YouTube actuellement. Donc déjà, vu que YouTube c'est nouveau et que c'est pas forcément trop clair aux yeux de l'État entre l'argent des publicités, les opérations sponso, etc. Enfin, du coup, ils mettent un peu le nez dedans. Il y a pas mal de youtubeurs qui sont en train de se faire contrôler. Je pense que j'ai peut-être été le premier. Déjà, il faut savoir que si j'en avais jamais parlé avant, comme je vous dis, c'est pas tellement une honte ou quoi que ce soit, parce que vous allez le voir, j'ai pas grand-chose à me reprocher, même pas du tout en vrai. Mais parce que ça a été une procédure qui, chez moi, a été très longue. Le contrôle fiscal a démarré à l'automne 2014 et il s'est terminé fin août 2016. J'ai commencé YouTube en février 2011, mes tout premiers revenus YouTube sont arrivés en avril 2012. Et donc il a fallu que je déclare tout ça, et donc je passe à auto-entrepreneur, c'est on va dire ce qui se fait de manière le plus classique. Auto-entrepreneur, donc c'est pas mal, sauf qu'il y a un plafond. Et si tu dépasses ce plafond, un plafond annuel, eh bien tu es reversé automatiquement dans la case du dessus qui s'appelle travailleur indépendant. Avec forcément vous payez plus de charges, plus de taxes, etc. Bon, voilà. J'ai dépassé le plafond d'auto-entrepreneur milieu d'année 2013. À ce moment-là, j'avais un comptable, qui était le comptable de mon père, qui était un très bon comptable, juste qui n'était pas très souvent dispo, qui m'avait dit, bah voilà, écoute, début 2014, tu vas recevoir un papier disant que tu vas passer en indépendant. Début 2014, je reçois effectivement un papier qui me dit que je passe en travailleur indépendant. Donc tout se passe comme prévu. À la suite de ça, je déménage sur l'île, et donc je me trouve un nouveau comptable. Et à ce moment-là, arrive le contrôle fiscal. J'avais dépassé à peu près en été 2013, le statut d'auto-entrepreneur. Sauf que, et c'est ça que mon ancien comptable m'avait pas expliqué, la deuxième partie de l'année 2013, il aurait fallu que je la régularise. En gros, j'avais 6 mois de retard de TVA et d'impôts. Et en gros, pendant un an, j'ai eu des différents rendez-vous avec le contrôleur fiscal. Ça faisait, depuis que j'étais indépendant, je recevais de l'argent qui était à verser à titre de TVA. En gros, je devais verser à un organisme qui ne me connaissait même pas. C'est-à-dire que normalement, quand tu dois payer de la TVA, tu as ce qui s'appelle un numéro d'affiliation que je n'ai jamais reçu malgré de multiples relances. L'autre truc dont on s'est aperçu, c'est que le paiement libératoire de l'impôt en auto-entrepreneur, lorsqu'ils m'ont basculé en indépendant, eh bien, il se trouve qu'ils me l'ont enlevé. Ce qui veut dire que je ne payais plus mes impôts avec mon URSSAF. Donc j'avais du retard sur mes impôts aussi, en plus d'avoir les 6 mois que j'avais fait en auto-entrepreneur, alors que j'aurais dû les faire en indépendant, mais qu'ils m'ont averti qu'après, et qu'ils n'avaient pas dit qu'il y avait une rétroactivité, etc. Du coup, voilà, c'est le genre de choses dont on s'est aperçu pendant le contrôle qui ont fait que bam, 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 ça s'est accumulé. Et du coup, au bout d'un an, une fois que ça s'est arrivé, il s'est passé qu'il m'a dit, bon bah écoute, maintenant on va analyser le dossier, on va l'envoyer, on va appuyer sur le fait que tu es de bonne foi. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai eu des majorations de retard, etc. Alors, vu que j'étais de bonne foi, il a pu faire sauter les pénalités de retard, je comprends, parce que ça peut majorer de 40%. Vous imaginez 40% de la somme en plus, enfin, c'est quand même, voilà, c'est quasiment double. Et donc oui, j'ai quand même eu une majoration. Et du coup, c'est pour ça que je disais vraiment, le comptable, c'est très important, encore plus quand on est sur YouTube, je pense. Je pense vraiment que j'ai été un des premiers à subir tout ça. Et maintenant, c'est derrière moi, et je suis content d'être enfin bien entouré, bien conseillé. Donc voilà, si jamais vous êtes YouTubeur, même pas hein, que YouTubeur, mais on va dire, si vous êtes YouTubeur, que votre chaîne commence à générer de l'argent, et que vous sentez que ça monte et tout, je peux vraiment que vous conseiller de faire les choses bien comme il faut. Moi, c'est toujours ce que j'ai tenté de faire, même quand il y avait des choses que je ne savais pas. Parce que tu démarres, tu arrives dans un monde que tu ne connais pas, tu es assailli de lettres, de machin, de tu dois payer ici, ça, ça, ça. Tu as même des fake lettres. Et depuis que je passe en société, je reçois un nombre de courriers, de faux courriers inimaginables. Vous imaginez même pas, c'est que des arnaques. Donc c'est vraiment un monde de requins, entre guillemets. Il faut faire attention, mais il faut bien s'entourer, tout simplement. Dans tous les cas, les amis, j'espère que cette vidéo un peu plus technique vous aura plu. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon.
C'était Le Fisc, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Anna El Fakir et Cécile Lafont. Merci à Henri Dumas, à Rémi Garnier et à Sifano. C'est Mélissa Foust, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire. Live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime. Gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting